Santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Le dossier de ce journal est consacré ce soir à un sujet controversé, rarement traité à la télévision, la sexualité des personnes handicapées. Si le droit de faire l'amour quand on est handicapé est désormais admis, la question sur la dépendance reste grande ouverte et encore taboue.
Il y a une loi quand même qui dit qu'ils ont le droit à leur vie intime et en même temps une société qui n'a pas encore très très bien admis une sexualité, une vie de couple pour des personnes handicapées. Et de surcroît dans une institution et dans les murs de cette institution.
Au programme d'Enjeux de Santé cette semaine, il sera question de handicap et de sexualité. En compagnie de mes deux invités, Eve Gardien, maître de conférence en sociologie à l'université Rennes 2, et Marcel Nuss, essayiste, auteur de différents ouvrages sur le handicap, handicapé lui-même par une amyotrophie spinale, militant connu pour ses positions controversées sur l'assistance sexuelle et fondateur de l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Le 11 février 2005 était votée la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, laquelle dessinait un nouvel horizon pour la politique publique française du handicap. Réactualisant la loi du 30 juin 1975, celle de 2005 proposait enfin une définition de la notion de handicap, qui, pour le dire vite, désigne les limitations d'activité ou de participation à la vie en société subies par une personne en raison d'une altération physique, sensorielle, mentale ou psychique. Cette loi repose sur trois piliers fondamentaux. L'accessibilité de tous les domaines de la vie sociale, le droit à la compensation des conséquences du handicap en termes matériels ou humains, et la création d'un guichet unique à l'échelon départemental, c'est-à-dire les maisons départementales des personnes handicapées. En matière d'accessibilité, certaines associations nationales ont récemment manifesté leur mécontentement concernant celle du cadre bâti, lequel devait être entièrement accessible courant 2015. Mais la loi mentionne par ailleurs l'accès à la scolarité, avec notamment la création des assistants de vie scolaire, l'accès à l'emploi avec le principe de non-discrimination, l'accès aux transports, aux soins, etc. Dans toute la France, des colloques et des conférences se déroulent actuellement pour revenir sur les apports et les faiblesses de la loi pour sa première décennie d'existence. Pour notre part, nous avons préféré l'aborder par l'un de ses manques originels, c'est-à-dire la sexualité des personnes handicapées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'unique loi parlant d'un droit à la vie affective est celle du 2 janvier 2002 portant sur la rénovation des secteurs social et médico-social, loi qui ne concerne que les personnes en lien avec de tels établissements. Or, nous savons qu'aujourd'hui, la majorité des personnes dites handicapées ne sont pas concernées par ces établissements sociaux ou médico-sociaux, mais alors qu'en est-il de leur sexualité et surtout du regard que nous portons sur elles? En France, le débat se focalise sur l'accompagnement sexuel et n'échappe pas aux jugements moraux. Pour tenter d'éclaircir cette controverse, je suis d'abord allé à la rencontre d'Eve Gardien, maître de conférence en sociologie à l'université Rennes 2. Sociologue, Eve Gardien est spécialiste des questions relatives au handicap. Son parcours intellectuel est aujourd'hui jalonné de nombreuses productions scientifiques, allant de l'évaluation du handicap à l'émergence des savoirs profanes et des réseaux de militance portés par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. C'est à l'intérieur de ce parcours de recherche qu'elle a pu aborder la question de la sexualité des personnes en situation de handicap. L'originalité de son questionnement nous permettra d'approcher la controverse de l'accompagnement sexuel sous un jour nouveau, car moins passionnel. Mais pourquoi ? Se dire pour ou contre l'accompagnement sexuel actuellement, c'est pour partie accepter les termes du débat tels qu'ils sont. Ce que je vous propose en compagnie d'Eve Gardien, sociologue, c'est bien de reformuler les termes de ces débats. Avant tout, l'accompagnement sexuel est une pratique, mais quelle est-elle ?
L'assistance sexuelle ou l'accompagnement sexuel consiste en des pratiques très, très concrètes où des intervenants humains se rendent à domicile ou se rendent dans certaines institutions ou reçoivent dans le cadre de leur propre logement ou de leur propre bureau. Des personnes handicapées, c'est très rarement n'importe quel type d'incapacité, de limitation ou de handicap qui sont concernés, mais plutôt des personnes qui ont des grandes dépendances dans la question des gestes au quotidien. Sinon, par ailleurs, la question de l'assistance sexuelle se pose beaucoup moins, puisqu'ils peuvent avoir des rapports comme tout à chacun. L'accompagnement sexuel est toujours été envisagé pour l'instant, à ce que je sais, plutôt concernant des personnes qui ont une dépendance physique très importante, donc qui peuvent difficilement ou peu toucher le corps d'autrui ou peu toucher leur propre corps. C'est souvent dans ce contexte-là qu'a été pensée la question de l'assistance sexuelle. Il y a plusieurs pays qui sont engagés et certains ont même légiféré positivement, donc c'est des pratiques légales. Ça a démarré notamment aux Pays-Bas. Vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie, la Suisse. Là, ce sont des pays dans lesquels ces pratiques ont lieu. Ce n'est pas toujours légal, hein, mais ça, c'est souvent les pays dans lesquels la position abolitionniste n'est pas dominante d'un point de vue politique, mais les pays qui ont opté pour penser la prostitution non plus en termes d'esclavage sexuel, mais en termes de travail du sexe. Voilà, donc c'est très relié à ces questions-là. Parce que dans l'assistance sexuelle, en général, les relations sont tarifées. Et qui montre bien qu'il y a un écart entre une relation et un investissement affectif et sexuel, et le fait qu'on a affaire à un prestataire de service.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous résumer le débat français aujourd'hui ? Quelles sont les différentes positions qui s'affrontent sur la question de l'accompagnement sexuel ?
Les positions sont multiples et très souvent d'ordre moral. C'est même probablement parce que sont mis d'abord en avant les principes sans essayer de déplier les situations concrètement vécues pour qu'on puisse envisager une éthique en situation, que probablement on rencontre autant de difficultés et raison aussi pour laquelle le débat prend autant d'espace et autant de vigueur. Marcel Nuss serait par exemple un militant qui met en avant l'importance pour lui de l'assistance sexuelle parce qu'il faudrait pouvoir permettre aux personnes très dépendantes d'accéder à une forme d'humanisation et d'incarnation d'elle-même. Autrement dit, il pense que ne pas pouvoir accéder à des pratiques sexuelles, c'est aussi être amputé d'une partie de soi-même et de son humanité. C'est plus qu'un manque, c'est une amputation. C'est plutôt que de ce registre-là, sa position. Et après, vous avez aussi donc les positions adverses. L'enjeu est plutôt à la protection d'un public très souvent féminin, qui serait, on va dire, prestataire de services, mais avec l'idée que très souvent, il ne s'agit justement pas de prestations de service, mais bien d'individus ou de femmes qui ne sont pas libres de leur corps, voire même l'argent ne leur est pas nécessairement totalement dédié ou pas du tout. Il y a vraiment des enjeux de protection du côté des personnes prostituées, hommes ou femmes d'ailleurs. Et puis, il y a aussi une nouvelle étape dans le débat qui est celui de la responsabilisation des clients, des personnes prostituées, hein, et avec l'idée que être client, finalement, c'est cautionner, c'est soutenir, d'une certaine façon, l'esclavage sexuel, hein, c'est ça l'enjeu.
C'est deux mondes qui entrent en tension, finalement.
Voilà, ouais.
D'accord, très
protection
bien.
Des uns contre satisfaction des autres.
En évoquant les positions défendues par Marcel Nuss vis-à-vis de l'accompagnement sexuel, en compagnie d'Eve Gardien, j'ai pu apprendre que ce dernier était le fondateur d'une association, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, l'APAS. Sujet sensible en France, comme nous l'avons évoqué, sa posture militante l'a conduite à mettre en pratique les idées qu'il défend depuis une quinzaine d'années. Je l'ai donc contacté par téléphone pour recueillir son point de vue et mettre la théorie à l'épreuve de la pratique. L'association de Marcel Nuss est véritablement pionnière dans le domaine de l'accompagnement sexuel puisqu'elle propose la première formation française en la matière au courant du mois de mars.
On propose de l'accompagnement sexuel un peu partout en France. On a des hommes et des femmes qui nous ont rejoints, qui pratiquent cet accompagnement. Et l'association nous met, nous offre une certaine sécurité. On lance au mois de mars une formation. On répond à une demande des personnes qui souhaitent faire de l'accompagnement sexuel. Notre but, c'est de les former, c'est de les conseiller, c'est de les informer, c'est aussi de les amener à faire un travail de conscientisation. C'est-à-dire que nous, on souhaite les amener à travailler sur leur projection, sur leur motivation profonde, pour qu'elles sachent où elles vont en plus. La plupart ne connaissent pas le mal de multi-handicap, donc ils ont une appréhension de départ qui est logique, qui est fondée sur la tête.
Cette formation, elle s'adresse à des gens qui vont intervenir dans des établissements médico-sociaux ou qui vont intervenir au domicile, par exemple, des personnes.
Entre autres. Aussi bien dans le médico-social qu'à domicile, ça dépend des demandes. Tout comme on a des demandes de couples en situation de handicap qui aimeraient être accompagnés, donc là aussi c'est très spécifique. Et sans formation, il est très difficile d'assumer ce type d'accompagnement. La formation a été construite dans le but d'apporter un maximum d'informations de leur permettre de faire des exercices pratiques qui pourront leur être utiles et les formateurs également choisi en conséquence.
Par rapport à vos activités, notamment par exemple avec cette formation, avec votre engagement en faveur de la vie sexuelle des personnes handicapées, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des tensions entre vos pratiques et la législation française en quelque sorte ?
Ah mais si, il y a une pension, comme vous dites, dans la mesure où l'association qui est en première ligne sert de médiateur et d'intermédiaire entre les accompagnants sexuels et les personnes handicapées qui sont en demande, prend le risque d'être poursuivi pour proxénétisme.
Jusqu'ici, vous avez été inquiété ou...
Non, de toute façon, premièrement, il n'y a aucun argent qui entre en ligne de compte à d'autres niveaux. L'association travaille bénévolement. Les accompagnants sexuels se font rémunérer, mais c'est légal. Le risque est là, mais je pense que un de nos objectifs à terme, c'est d'obtenir une jurisprudence. Tôt ou tard, il faudra qu'on soit amené à mettre ça sur la place publique.
Quand vous parlez de votre cause et quand on emploie l'expression accompagnement sexuel, donc on parle aussi d'une fonction, c'est-à-dire l'accompagnant sexuel. Est-ce que, avec votre association, la définition va être à peu près la même que ce qui peut exister, par exemple, en Suisse ?
Ah, tout à fait. La seule différence, c'est que nous, pour l'instant, les accompagnants, on ne peut pas leur donner du statut. En Suisse, quand on se prostitue, on a un statut reconnu des prostituées en Suisse, ou une assurance, ou une couverture sociale, ou... pour une reconnaissance légale. Nous, on ne souhaite absolument pas légiférer. On souhaite simplement une jurisprudence. Parce que nos voisins européens ont montré le bienfait de ce type d'accompagnement particulier qui ne peut pas être assumé par n'importe qui. L'expérience que j'ai faite il y a 3 ans a démontré que c'est impossible. Il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté pour faire de l'accompagnement sexuel.
S'il n'a actuellement pas question d'argent pour la PASS, sous peine d'être poursuivi pour proxénétisme, comme nous l'a rappelé Marcel Nuss, celui-ci défend cependant le droit pour les accompagnants sexuels d'être rémunérés pour leurs prestations.
L'argent est essentiel. Il faut qu'il y ait un contrat clair pour éviter certaines ambiguïtés. De plus, l'investissement qu'on met dans un accompagnement sexuel est énorme. Il faut une formation préalable, une formation que les personnes payent. Il n'a pas de raison qu'il travaille bénévolement.
L'idée, c'est de professionnaliser les accompagnants sexuels, donc.
C'est ça.
Si les accompagnants sexuels viennent principalement du monde de la prostitution, on peut être étonné par la diversité des profils rencontrés par la PASS, et notamment du nombre d'hommes qui participeront à la formation de l'association au mois de mars.
Soit ils sont dans la prostitution, soit ils viennent de milieux très différents. Nous, par exemple, on va former au moins entre 6 et 12 personnes. Sur ces personnes, on a 3 escortes, 2 escort boys et 1 escort girl. Les autres, il y a un pompier en activité. On a une infirmière, on a des gens du médico-social, éducateurs, donc ils viennent de milieux très divers.
Vous venez de préciser qu'il y avait des hommes qui étaient donc inscrits à cette formation, et on sait que par exemple...
Majoritairement des hommes.
Parce que les critiques féministes, c'est leurs idées aussi, c'était de dire que la création d'un statut d'accompagnant sexuel allait majoritairement concerner les femmes plutôt que les hommes. Et qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui ?
Moi, je constate qu'on a 8 hommes et 3 femmes qui se sont inscrits. Donc, je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a un renversement d'image, il y a des préjugés qui sont mis à mal. Parce que un des arguments des opposants, depuis que moi j'ai mis dans ce milieu, c'est de dire que de toute façon, c'est une affaire de mecs, c'est les femmes qui vont de nouveau devoir se coordonner tout ça. Alors que là, on voit clairement qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'engagent. Ça pose question parce que ça va inciter, en tout cas je l'espère, les femmes en situation de handicap à se manifester depuis que la place existe. Je crois qu'on a 4 ou 5 femmes, si c'est pas moi, qui ont sollicité un accompagnement sexuel.
Et vous avez combien d'hommes aujourd'hui qui font appel à vos services ?
Je dirais 20. La première année, on a environ 20 d'hommes, plus 3 ou 4 femmes qui sont venues.
N'imagine peut-être pas forcément directement la même chose pour auprès de personnes qui auraient des déficiences d'ordre psychique ou mental. Est-ce que vous souhaitez mener votre objectif d'accompagnement sexuel de la même façon auprès des personnes handicapées psychiques et mentales ?
On souhaite pouvoir aller sur ce terrain en sachant que les attentes, les besoins, les réponses ne sont pas les mêmes. C'est une population qui est beaucoup plus difficile à accompagner parce que plus complexe à aborder, c'est-à-dire faire la différence entre ce qui est exprimé et ce qui est vraiment attendu. Il faut plutôt faire la part des choses. Alors, il y a des cas où l'accompagnement sexuel est clairement demandé, d'autres derrière les mots. Il faut entendre autre chose. Donc, c'est toute la difficulté.
J'avais une question pour finir cet entretien qui concernait plutôt l'aspect que vous avez mentionné en filigrane un peu de votre propos concernant le handicap psychique et le handicap mental. J'ai l'impression que le questionnement va être davantage éthique et j'ai vu que vous étiez très bien entouré dans le conseil d'administration. Je pense notamment par exemple à Pierre Ansec, philosophe avec qui vous avez déjà publié des ouvrages. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi un sexologue par exemple. Il me semble qu'il doit y avoir peut-être bien un psychologue. C'était une vraie volonté de votre part d'être entouré par d'autres intellectuels et des praticiens.
Ah non, mais c'est essentiel si on veut être crédible, si on veut être pris au sérieux, il faut que d'autres associations soient irréprochables, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait un travail de réflexion, un travail de fond qui est très important. On a quand même deux juristes, on a un directeur d'établissement, on a deux directeurs, un dans le milieu institutionnel, l'autre dans le milieu de l'accompagnement à domicile. Donc, moi, mon but, quand j'ai créé une association, c'est de mettre en place un champ de réflexion très large et de travailler avec des gens qui sont reconnus dans leur domaine. C'est vital.
De retour avec Eve Gardien, maître de conférence en sociologie à l'université Rennes 2.
Les revendications collectives autour de la sexualité pour les personnes en situation de handicap, ça date pas forcément d'hier. D'où ça vient ? À partir de quel moment y a-t-il une revendication autour de la sexualité, sachant qu'à la base, on a tendance à considérer que la sexualité relève de l'intime et non pas du public ?
Pour ce que j'en sais de mes recherches actuelles, ce n'est pas lié réellement à la question de l'histoire du handicap en France, c'est beaucoup plus lié d'abord à une évolution des mentalités et de la culture française, et notamment avec l'instauration de la notion de vie privée ou de vie intime à partir du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, des mouvements sociaux, notamment féministes, qui ont démarré au XIXe et qui étaient très portés sur des causes autour du corps et de la santé, et qui ont abouti dans les années 70, donc avec l'époque du Flower Power, à des revendications féministes qu'on connaît bien, qui est « Mon corps m'appartient ». Dans le même temps, on a eu des mouvements côté gay, lesbien, qui revendiquaient aussi la fierté d'être gay ou d'être lesbienne, d'avoir le droit, la légitimité à être eux-mêmes en société, et non plus d'être considérés comme des délinquants sexuels. Et dans ces mouvements-là, et à partir des années 70 en France, on retrouve effectivement des collectifs de personnes handicapées qui eux-mêmes militaient pour une libération sexuelle des personnes handicapées. Voilà. Et c'est à ce moment-là que c'est apparu, pour ce que j'en sais aujourd'hui.
La controverse actuelle autour de l'accompagnement sexuel a ceci de particulier qu'elle polarise les débats entre les pour et les contre. Notre rôle dans Enjeux de santé n'est pas bien entendu de prendre position pour telle ou telle partie, mais bien de comprendre ce qui motive la nécessité d'y réfléchir. Pour cela, Eve Gardien propose de rappeler en quoi le corps, la sexualité et la dépendance des personnes handicapées relèvent pour une bonne part de logiques qui sont sociales. Reconnaître cette composante collective dans la production du corps et de la dépendance, c'est pour elle l'occasion de ne pas renvoyer systématiquement les personnes à leur propre sort.
Donc le corps, ça s'apprend, y compris dans la mise en œuvre de besoins très fondamentaux comme le sommeil et la récupération. Et au-delà des techniques du corps, vous avez par exemple un sociologue comme Georges Vigarello, sociologue et historien du corps, qui a montré par exemple que le corps est un montage socio-organique. Et là, ce qu'il apporte d'intéressant avec cette notion, c'est l'idée que non seulement le corps correspond à un ensemble de techniques corporelles qui ont été transmises, mais surtout, il y a toujours un panel de techniques corporelles. Il y a plusieurs façons de manger, plusieurs façons de cuisiner, plusieurs façons de s'asseoir, plusieurs façons de s'habiller, enfin, etc. La culture choisit de manière assez arbitraire, finalement, quelles sont les options qui seront la norme dans cette société-là. Et c'est ces options-là qu'elle transmet. En général, elle transmet les techniques du corps qui, pour une raison ou pour une autre, lui semblent les plus efficientes au regard de l'environnement sociétal tel qu'il est à ce moment-là. Donc, autrement dit, ce qui est intéressant avec cette notion de montage socio-corporel, c'est d'abord qu'il met en évidence à la fois, bien sûr, la question de la transmission de l'apprentissage, mais surtout le fait qu'il y a un choix qui est mis en avant par une société. Donc, d'autres choix seraient possibles. Et enfin, que ces choix sont aussi pensés et sont relatifs à un environnement donné, à un moment donné. Donc un environnement technique, un environnement biologique, un environnement médical, un environnement architectural, etc. etc. Être dépendant dans les gestes de la vie quotidienne suppose donc d'avoir des intervenants, des aides humaines, qui vous accompagnent au quotidien pour assurer votre survie, mais également votre vie, donc votre qualité de vie. Ces interventions sont encadrées par un ensemble de textes légaux et réglementaires, par un ensemble de services, de prestataires, qui organisent donc ces interventions, et c'est rarement la personne elle-même qui officie en tant qu'entrepreneur ou employeur. C'est possible, mais c'est plutôt une situation rare. À partir du moment où il y a des textes légaux, réglementaires, et à partir du moment où c'est un établissement, une institution qui organise des prestations de services pour compenser le handicap au quotidien, il y a un ensemble de contraintes, bien sûr, qui s'établissent, qui sont des contraintes budgétaires, qui sont des contraintes de rentabilité, qui sont des contraintes d'affectation du temps à des tâches précises. On se met à forfaitiser du temps, et ça va être 30 minutes ou 20 minutes pour une douche, et pas plus ou pas moins, etc. Et grosso modo, la personne très dépendante va se retrouver corsetée par cet ensemble de contraintes qui viennent pas tant de sa dépendance physique que des contraintes qui sont impulsées par les dispositifs qui encadrent et qui accompagnent sa dépendance. Il ne s'agit pas tant de dire que l'handicap est socialement construit et principalement la dépendance serait socialement produite, que de dire que la dépendance n'est pas seulement un fait biologique, mais elle est aussi socialement construite, et que là où on a une marge de manœuvre importante, c'est justement là où socialement on produit. C'est là où on peut vraiment agir. Quand un corps ne peut pas faire tel ou tel geste, une fois qu'on a procédé à l'ensemble des opérations chirurgicales ou médicamenteuses, et une fois qu'on a fait une rééducation optimale, on peut rarement aller plus loin, en tout cas en l'état des avancées scientifiques et technologiques. Mais par contre, socialement, il est toujours possible de s'organiser autrement et de penser autrement la satisfaction à la fois des besoins, mais aussi des aspirations de ces personnes. Donc là, il y a une vraie marge de manœuvre, un vrai levier d'action.
Ce qui fait que, si on comprend bien, donc vous venez de nous démontrer en quelque sorte comment on pouvait réfléchir sur la question de la sexualité et de la dépendance d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire comprendre en quoi ces deux phénomènes relèvent davantage d'une production sociale avant d'être finalement des caractéristiques individuelles qui seraient imputables à la responsabilité des personnes. Ce qui fait qu'à partir du moment où on peut comprendre ces phénomènes en termes sociologiques et de production sociale, on peut commencer à envisager la question des inégalités sociales. Est-ce qu'il existe sur ce point, il me semble avoir vu l'existence d'une enquête, l'enquête HID, mais qui remonte déjà, y a-t-il sur ce point des enquêtes qui ont été réalisées sur les éventuelles inégalités sociales dont seraient victimes les personnes en situation de handicap du point de vue de leur sexualité ?
L'enquête HID, c'est seulement quelques questions, vraiment un panel très restreint de questions, sur la question de la santé sexuelle des personnes et non pas sur la question des inégalités sociales. Les inégalités sociales étant, qu'elles soient sexuelles ou pas, hein, étant l'aboutissement d'un raisonnement de comparaison. Donc on a recueilli dans le cadre de l'enquête HID un certain nombre de données qui permettent effectivement d'inférer, en comparant aux pratiques et à la santé sexuelle du reste de la population française, qu'effectivement il ne se passe pas les mêmes choses, et en termes de comportement et en termes d'opportunités.
Vous venez d'employer une expression, c'est peut-être pas forcément clair pour tous nos auditeurs, le concept de santé sexuelle. C'est quelque chose qui a émergé dans les années 70, il me semble, sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que ça désigne plus précisément ?
De manière générale, l'OMS, depuis que cette institution a été créée, elle travaille à une promotion, à une prévention et à une éducation à la santé au niveau mondial. L'OMS organise, on va dire, des rencontres d'experts au niveau international, et dans lequel un certain nombre de thématiques sont travaillées. C'est en 1974 que l'OMS, mais un certain nombre d'autres réseaux internationaux, ont décidé de promouvoir la question de la sexualité et notamment de la santé sexuelle. Et donc c'est dans le cadre d'un grand congrès international d'experts qu'a été inventée cette nouvelle notion qu'est la santé sexuelle. Alors la définition en est la suivante: la santé sexuelle est l'expérience d'un processus continu de bien-être physique, psychologique et socioculturel concernant la sexualité. Donc là, on voit que ce qui est très important, c'est que effectivement, à la fois, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps et qui participe à l'histoire d'un individu ou d'une population, mais c'est aussi quelque chose qui ne serait pas seulement physique ou biologique, mais aussi psychologique et socioculturel, donc social. Deuxièmement, la santé sexuelle est fondée sur l'expression libre et responsable des capacités sexuelles qui renforce le bien-être harmonieux, personnel et social et enrichit la vie individuelle et sociale. Elle ne réside donc pas uniquement dans l'absence de dysfonction, de maladie ou d'infirmité. Alors ce passage-là est extrêmement important parce que d'abord il montre qu'il s'agit à la fois de la liberté et de la responsabilité de chacun d'entre nous, que de développer ses capacités sexuelles pour en faire quelque chose qui relève du bien-être, mais du bien-être en relation avec autrui, donc dans une relation sociale. Autrement dit, la sexualité du point de vue de l'OMS n'est pas seulement une fonction biologique, n'est pas seulement une pulsion, il s'agit bien de quelque chose qui est autre chose, la réduction d'une activité sexuelle ou d'une vie sexuellement épanouie n'est pas liée uniquement à un dysfonctionnement qui serait d'ordre biologique, à une maladie ou encore à une infirmité, à un handicap. Donc le lien social est au cœur de la sexualité du point de vue de l'OMS.
Finalement, elle parle de droit à la sexualité. C'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre aujourd'hui en France et que vous réfutez, me semble-t-il.
C'est pas le droit des uns contre celui des autres. Il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit bien justement d'un lien social et d'un épanouissement, d'une harmonie, d'un bien-être avec autrui. C'est plutôt ça qui est visé et qui découle de la compréhension de la définition qui est proposée. Mais par contre, ce qui est aussi visé, c'est qu'on comprenne que les États s'engagent et deviennent responsables dans une promotion à la fois de la santé, mais de la santé au sens large, notamment de la santé sexuelle. Donc ce qui est attendu finalement des États, et ce sur quoi l'OMS insiste particulièrement, c'est plutôt une organisation, on va dire, d'une éducation à la santé, et notamment d'une éducation à la santé sexuelle, mais aussi des préventions en termes de risques sanitaire ou de risque en termes de santé et notamment en termes de sexualité. Que du point de vue du cadre juridique français, donc le droit à la sexualité n'existe pas, mais pour autant, il existe une liberté sexuelle. La liberté sexuelle, c'est la possibilité d'avoir des pratiques sexuelles avec soi-même ou avec autrui, dans la mesure où on respecte les libertés d'autrui et notamment son consentement.
Les personnes en situation de handicap sont donc bien entendu soumises...
des citoyens comme les autres.
Peut-être un peu moins concrète que Marcel Nuss, Eve Gardien s'interroge davantage sur les conditions dans lesquelles les personnes handicapées pourraient accéder aux apprentissages nécessaires à l'épanouissement corporel, faisant ainsi de l'éducation à la sexualité une condition préalable à l'acte sexuel lui-même. Pour elle, c'est donc l'accès aux situations dans lesquelles se réalisent de tels apprentissages socio-sexuels qui devraient être débattus à plus long terme, permettant ainsi d'élargir le panel des possibles en matière de vie affective et sexuelle pour les personnes handicapées.
Globalement, les personnes qui ont une très grande dépendance physique, très souvent, de par leur trajectoire de vie, n'ont pas la même socialisation, n'ont pas exactement la même éducation, ne vivent pas les mêmes situations dans une cour de récréation, n'ont pas autant d'opportunités de rencontres, de situations d'apprentissage, ne serait-ce que parce qu'elles assistent à des situations de séduction. Par exemple, comment est-ce qu'on drague un homme, une femme ? Ce n'est pas nécessairement une évidence, c'est des choses qu'on a observées quand on était plus jeune, et puis on s'est inspiré, on a créé nos propres façons d'être. Donc une socialisation différenciée très souvent en institution, et qui fait qu'on n'est pas du tout amené à vivre les mêmes situations de vie, et donc à faire les mêmes apprentissages. Et c'est peut-être probablement là aussi qu'il se joue des choses. Pareillement pour l'apprentissage du corps qui n'est pas le même du fait d'un traitement très spécifique, très médicalo-centré, beaucoup moins focalisé sur la question de l'épanouissement, du développement de la sensorialité, etc., etc. L'important est peut-être probablement de se désenclaver de cette polémique qui a focalisé sur uniquement un moyen de compensation très immédiat, mais qui ne permet pas justement de prendre en compte que le handicap n'est pas seulement construit biologiquement, mais aussi socialement, et que peut-être donc dans cette construction sociale, il y a d'autres marges de manœuvre à développer. Et par exemple, il me semble que quelque chose qui serait très en lien et très congruent avec les propositions de l'OMS, ça serait aujourd'hui de penser une éducation sexuelle. Alors quand je dis sexuelle, c'est à comprendre au sens large, c'est savoir être en relation affective avec autrui, savoir respecter autrui, connaître à la fois les possibilités mais aussi les limites, comprendre ce que c'est que le consentement, enfin toutes ces choses qui font qu'on peut avoir une relation harmonieuse avec autrui, qui peut se développer ou pas dans des dimensions sexuelles.
L'éducation à la vie affective et sexuelle, si elle fait encore l'objet d'un certain nombre de tabous à l'école, n'est pas nouvelle en soi. Elle peut prendre des formes extrêmement variées dont la majorité reste encore sûrement à inventer. Pour vous donner un exemple, je suis allé rencontrer Jonathan Martin, coordinateur de projet au sein de l'association Les Petits Débrouillards. Il nous présente l'exposition interactive Sexe Braise qu'il présente au sein d'établissements pour personnes en situation de handicap.
Alors, l'exposition Sex Braise, c'est un projet qu'on mène depuis maintenant 3 ans en Bretagne, qui est une exposition qu'on a vue paraître par les petits débrouillards de Lorraine. Ça s'appelait là-bas la Sexothèque, donc exposition interactive de sensibilisation et d'éducation à la vie affective et sexuelle. En Bretagne, on a lancé une version bêta il y a maintenant 3 ans, qui a tourné un peu dans différents cadres. On a l'occasion d'intervenir auprès de jeunes en milieu scolaire, dans le cadre de FJT, dans le cadre de maisons de quartier, etc. Et là, moi, principalement, je pilote l'adaptation au public en situation de handicap. Quelle forme ça prend une expo autour de la sexualité ? Les petits débrouillards, on a voulu avoir un axe qui est le nôtre, qui est un axe scientifique. Donc voilà, c'est par cette entrée-là qu'on arrive dans la sexualité, et par un axe ludique et décalé. C'est aussi un des caractères des petits débrouillards. Donc l'expo, elle prend une forme de grande armoire qui fait 2 mètres de haut, dans laquelle il y a plein de petites portes, des petits tiroirs qui nous posent des questions et qui nous renvoient du coup sur des modules interactifs où on va tester, où on va manipuler certaines choses pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi il retourne. On a pour le moment 2 armoires, une sur la partie un peu plus physio qui est du coup l'armoire Mon Corps. On va y retrouver 4 modules qui sont associés, les modules sans dessus-dessous, qui sont des coupes génitales masculines, féminines, et puis on va essayer de comprendre un peu ce qui se cache sous le capot, du coup. On a un module avec une tablette où on voit une petite vidéo qui s'appelle « C'est l'heure de la puberté », où on va voir une puberté accélérée de 2 petits personnages de fiction entre leurs 10 ans et puis leurs 20 ans, et comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on grandit et qu'est-ce que c'est que cette fameuse puberté. Et puis un dernier module qui s'appelle Sex Pistols, où là c'est un jeu avec un ovule géant, avec des spermatozoïdes, un quiz technique sur les ovules, sur les spermatozoïdes, et essayer de comprendre du coup comment on fait un bébé.
Vous avez précisé que vous interveniez dans des établissements pour personnes en situation de handicap. On parle de quel établissement et de quel handicap ?
On parle principalement du handicap mental dans le cadre d'IME, d'Institut Médico-Éducatif. Là, en ce moment, je suis en train de travailler en partenariat avec un foyer de vie pour intervenir auprès de jeunes adultes. On peut imaginer intervenir auprès des AT ou auprès de MAS, tout établissement recevant des jeunes et des adultes en situation de handicap. Effectivement, on nous a vu arriver bizarrement parce que les petits débrouillards n'ont pas forcément un lien direct avec le monde du handicap. C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, et pour autant c'est une question qui nous tient à cœur parce qu'effectivement il y a un énorme débat de société autour de ça, que nous, association d'éducation populaire, on se dit association agitatrice d'esprit critique, et que le but c'est de pouvoir outiller chacun à vivre pleinement au quotidien, et donc la sexualité, même pour une personne en situation de handicap, est quelque chose du quotidien et sur lequel il faut pas plier.
Comment par contre on adapte sa pédagogie et sa façon d'intervenir en tant que médiateur scientifique quelque part auprès d'un public en situation de handicap mental ?
Je crois que ça se prépare principalement avec les équipes éducatives. Ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, c'est qu'on vient pas, on débarque pas avec l'expo en disant voilà, hop, c'est comme ça que ça se passe. L'objectif, c'est de co-construire avec les équipes éducatives dans les différents instituts de façon à adapter au mieux notre discours. Et puis le principe, c'est que c'est une exposition donc, qui est animée par un médiateur, et le médiateur va essayer de travailler à ce que son public le comprenne. Donc on va adapter... Il y a différentes choses. On va adapter le discours, bien évidemment. L'idée, c'est pas de simplifier et de rendre ça débile et absurde. On n'est pas dans la vulgarisation, mais bien dans la médiation. Donc, on va rendre accessible via le discours. Et puis, il y a différents outils, notamment le graphiste a refait pour nous des schémas qui étaient peut-être un petit peu moins compliqués, mais pour autant tout aussi détaillés, de façon à ce qu'on comprenne vraiment comment ça fonctionne, le sexe d'un garçon, le sexe d'une femme, voilà.
Est-ce que vous présentez peut-être des objets ?
On présente des objets, il y a différents objets insolites dans les armoires, avec des petites vitrines, tout ça. On a des sous-vêtements, on a des petits personnages qui reproduisent des positions de l'acte, on a des coupes qui sont plus grandes, donc des coupes génitales. Puis incessamment sous peu, on va essayer de sortir pénis et vulve en 3D, de façon à pouvoir mieux se les approprier avec les jeunes.
La particularité peut-être des petits débrouillards, c'est d'être assez cru, d'oser dire aussi les mots et de ne pas cacher, de ne pas infantiliser finalement le public qui accède à cette exposition.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une entrée qui est scientifique, donc on n'est pas cru, on utilise juste le vocabulaire scientifique. Et donc on met les mots sur les choses, on appelle un chat un chat, ouais.
Alors jusqu'ici, dans les établissements dans lesquels vous vous êtes rendu, quels sont les retours ? Comment cette exposition est accueillie ? par le public, mais aussi par les équipes pédagogiques, éducatives, encadrantes, etc.
L'expérimentation qu'on a lancée sur un IME proche de Rennes, là, c'est le directeur pédagogique qui est venu me voir pour discuter de tout ça, accompagné de l'infirmière et de deux éduques qui étaient sensibles à la question, qui avaient mis en place un groupe de parole au sein de l'IME. Voilà. La chose a été présentée à l'ensemble de l'équipe éducative par le directeur pédagogique. De ce que j'en ai eu comme retour, apparemment, ça a un petit peu jasé. Certains se sont posé des questions. Voilà, faire venir l'extérieur dans un établissement, c'est jamais évident. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, nous, en arrivant. Le lundi matin, je suis arrivé avec toute mon exposition sous le bras, avec une autre animatrice. Et puis, on a d'abord fait toute une démo à toute l'équipe éducative, qui est repartie sereine, qui a senti que voilà, on allait faire les choses correctement. Et puis après, du côté du public, on est arrivé dans la salle polyvalente. Pendant toute une semaine, l'expo a été sur place. Donc ça a fait jaser énormément. On avait prévu un ordre de passage où les groupes venaient, des groupes de 7-8, pour venir discuter avec nous, passer une heure, deux heures, trois heures en fonction des jeunes. Et je sais que sur la semaine, ça a été une semaine qui a été incroyable, tant du côté des jeunes que du côté de l'équipe que de notre côté, parce qu'on parlait que de ça. Partout, dans la cour de récré, ça parlait sexualité, en cours de maths, ça parlait sexualité, et dans l'atelier jardinage aussi. On a la vocation, à travers l'exposition, on ne peut pas tout traiter, on ne peut pas discuter au cas par cas, on ne peut pas traiter tous les sujets. Pour autant, ça se veut être un starter, et c'est exactement ce que ça a produit chez les jeunes, c'est que c'était plus tabou quand ils sortaient de l'expo et qu'ils pouvaient oser poser les questions. Le truc, c'est de remettre à plat un peu tout ça, de voir ce qu'on a compris de travers aussi. Qu'est-ce qu'on s'imagine ? Il y a quelquefois besoin de repartir sur des choses très basiques, mais pour autant, on repart avec un socle commun après quoi. Et donc, on a été plus ou moins loin en fonction des jeunes. L'objectif, c'était absolument pas de les choquer non plus, mais bien de travailler à répondre à leurs questionnements. À l'occasion du bilan, il y a une éduc qui m'a dit qu'il y avait une jeune qui, avant, quand elle se dessinait d'une façon assez basique, non sexuée, et que depuis maintenant, quand elle se dessine, elle a une paire de seins, elle a une vulve, enfin voilà. Elle a pris conscience du fait qu'elle était sexuée. On a des jeunes qui vivent aujourd'hui leur homosexualité pleinement, qui s'affichent homosexuels sans être rejetés par les autres, ce qui n'était pas le cas avant au sein de l'IME, et c'est plutôt intéressant. Ouais.
C'était Enjeu de santé sur le 88.4 de Radio Campus Rennes. Retrouvez le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr, bien sûr.